RCF.
Ces grands angles, bonjour. Ils changent le monde, mais ne font pas de bruit. Ils ont abandonné leur métier pour répondre à une urgence, un appel, un projet. Ce sont les héros d'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui savent agir pour les autres, pour que la Terre tourne mieux. Alors pour se lancer dans leur projet, eh bien ils ont donc abandonné leur travail ou ils ont mis à profit leur retraite. Premier média des seniors, le mensuel Notre Temps couronne chaque année 5 associations qui donnent envie d'agir. Et on en parle en studio. Je reçois aujourd'hui Carole Renucci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des rédactions Notre Temps et vous avez remis hier au théâtre Édouard VII à Paris les prix 2017 des héros de Notre Temps. Une belle soirée pour récompenser 5 lauréats, et bien dont 2 sont avec nous en studio. Alors Tina Kieffer va nous rejoindre. Elle est une des lauréates de cette année, fondatrice de Toutes à l'école, une association qui travaille pour la scolarisation et la formation de haut niveau de petites filles cambodgiennes. Et puis pour mener ce projet, elle a abandonné son travail de journaliste. Elle était directrice de la rédaction de Marie-Claire. Michel Joyeux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une héroïne de notre temps. Vous avez fondé l'association Grands Parrains, qui a pour objet de mettre en relation les enfants sans grands-parents ou dont les grands-parents sont éloignés, ces enfants avec des seniors, des liens qui se tissent entre générations, pour se rendre service, pour s'amuser, on va en parler. Le sens de votre action s'est confirmé quand on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 600 parrainages qui ont été noués.
Nous en avons fait davantage. Les 600, ce sont des grands parrainages faits sur Beyrouth, au Liban donc. Et autrement, on en a plus de 2000 sur la France.
Plutôt 2000, j'étais loin du compte.
Voilà. Mais c'est parce que vous avez cité simplement, j'en ai parlé avec la personne qui, je crois, a fait le papier, vous avez cité simplement les 600 grands parrainages qu'on a fait par mail au Liban.
Dont vous nous parlerez tout à l'heure.
Voilà.
Jean-Jacques de Rosio. Vous êtes un ancien, si je puis dire, puisque vous êtes un héros de 2016 avec votre association T'as un ami. Alors ça s'écrit en majuscule T'A, un, le chiffre, ami. Vous accompagnez les personnes qui souffrent de solitude. Plus de 200 bénévoles, je ne me trompe pas?
Eh bien bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a 200 bénévoles quand nous avons reçu le prix en 2016, mais aujourd'hui nous sommes plus de 400 bénévoles et présents dans plus de 25 villes françaises.
Eh bien si ça double chaque année. Voilà, vous rendez visite au moins une fois par semaine à la personne qui éprouve donc cette solitude. C'est souvent une personne âgée, vous nous en parlerez. Vous étiez aussi du coup, comme lauréat 2016, juré en 2017. Vous nous raconterez comment vous avez pu décider un petit peu d'attribuer les récompenses cette année. Bernadette Bréhan, vous êtes lauréate en 2013. Alors,
bonjour.
Vous êtes, vous suivez avec attention les héros de notre temps. Vous êtes chercheur à l'INSERM. Vous avez créé le réseau Science SAS. C'est comme ça qu'on dit.
C'est comme ça qu'on dit. Science
voilà,
SAS, oui.
Science SAS qui met en lien des scientifiques à la retraite avec des associations de malades. Et vous nous expliquerez justement tout ce que ça peut porter comme fruit. C'est pas simplement pour le plaisir d'informer les uns et les autres, mais c'est bien plus large que ça. Oui. Tina Kieffer, vous nous avez rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Je le disais, vous êtes lauréate de cette année. Bravo. Vous êtes une héroïne. Vous avez fondé Toute à l'école, l'association donc qui travaille pour la scolarisation des petites filles cambodgiennes. On va détailler tout ça au cours de l'émission des héros. Pour aujourd'hui, c'est le thème du grand angle. C'est tout de suite sur RCF.
Grand angle RCF, en partenariat avec Bayard Presse.
Alors on va d'abord essayer de comprendre les héros de notre temps, cette initiative, Carole Renucci. Depuis 7 ans, vous avez décidé de vous lancer dans distinction des héros de notre temps.
Absolument, donc 7 ans, 40 héros, et à chaque fois de très belles histoires à raconter à nos lecteurs. L'objectif premier, c'était d'inspirer nos lecteurs qui se retrouvent un jour à la retraite avec beaucoup de temps disponible et qui parfois en font une dépression, se trouvent un peu démunis. Donc l'idée, c'était de rappeler et de dire très haut qu'en France, il y a beaucoup de gens qui font un tas de choses merveilleuses, que c'est bon de le porter à la connaissance du plus grand nombre, de façon à ce que d'autres personnes puissent s'inspirer, créer à leur tour une opération, une association, quelque chose qui a du sens et qui va donner du sens à leur vie.
Et on voit bien dans les lauréats que vous avez pu distinguer, c'est que ces initiatives, elles sont pas les seniors se soignent et s'occupent des seniors pour se soigner simplement, mais c'est véritablement intergénérationnel, c'est tourné vers les autres.
Absolument. Alors le credo de notre temps, c'est de se dire et de se rappeler que dans une société, pour qu'on fasse société, il faut que tout le monde soit main dans la main, les jeunes avec les moins jeunes, que on ne peut pas et on ne veut surtout pas cliver les générations et les opposer, comme parfois on tendrait à l'entendre, notamment, je parle par exemple du débat autour des retraites, hein, génération sacrifiée. Alors il est vrai qu'il y a des générations peut-être plus dotées que d'autres, plus chanceuses selon l'histoire, mais en tout cas, nous, notre sujet, notre objectif, c'est d'être dans la conciliation, et j'espère pas dans la réconciliation, mais en tout cas dans l'union de ces différentes générations. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, sur le choix de nos héros. L'idée, encore une fois, c'est d'inspirer. Et l'idée, c'est que il faut qu'on brasse absolument toutes les générations. D'où, par exemple, la présence de Tina aujourd'hui, hein, avec ses nombreuses petites filles. Donc, l'idée, c'est de se dire que tout fait sens et toute génération peut répondre à la demande et aux souhaits d'une autre génération. Donc, encore une fois, le sujet, c'est d'être inspirant.
Alors, on va le voir, hein, ce sont essentiellement des associations qui sont récompensés. En même temps, vous avez instauré un prix pour la silver économie, c'est-à-dire un peu, toutes ces start-up peut-être qui se développent et qui n'oublient pas justement qu'elles peuvent aussi rendre service aux plus âgés. Voilà. Expliquez-nous un peu
l'idée, ce prix. Donc, c'est quand même un secteur relativement neuf, hein, 4 ou 5 ans tout au plus. Donc là, l'idée, c'était de soutenir des start-up, bien souvent, qui se déploient en direction des plus âgés, sachant que les start-up, ce sont souvent des très jeunes. Donc là, je dirais, c'est aussi une façon de mettre en lumière et d'encourager le fait que des jeunes puissent, et il y en a de plus en plus, s'intéresser au sujet des plus âgés et notamment comment leur faciliter la vie. Donc là aussi, c'est un énorme signe d'ouverture qu'on ne pouvait que saluer et soutenir.
Et là donc, cette année, c'est DINSEO qui a été récompensé, application.
Alors là, c'est une très très jolie histoire. En deux mots, c'est une jeune femme qui quitte son emploi parce qu'elle trouve que là où elle est, il n'y a pas suffisamment de sens.
Voilà, Justine Sauquet.
Et elle rejoint sa maman et ensemble, elle développe une start-up. Donc la maman, comme elle se définit, est la plus âgée des codeuses de France. Elle a tout juste 60 ans, donc pour nous, c'est une toute jeune femme. Et elle s'associe avec sa fille. Et ce qui était magnifique hier, c'est de voir l'énergie qui se dégageait de ce couple mère-fille. On voyait à quel point elles étaient heureuses de travailler ensemble. Enfin, c'était vraiment très, 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 très sympa à voir.
Voilà, elle propose une application qui aide à entretenir la mémoire pour les personnes plus âgées.
En fait, elles ont fait le constat, et notamment, c'était dit par la plus jeune femme, que dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, on propose aux personnes âgées des jeux qui, en réalité, sont des jeux à destination destinés aux plus jeunes. Et elle a déjà trouvé ça extrêmement choquant. Donc, à partir de là, elle a commencé à élaborer des produits, des jeux à destination réellement des personnes âgées. Et là, c'est un vrai sujet aussi pour nous. C'est-à-dire qu'on se rend compte que notre société, c'est un petit peu ce que je développe en permanence, c'est que on a fait un travail merveilleux autour de l'enfance. On a théorisé, depuis 50, 60 ans, on a porté au plus grand nombre l'idée qu'un enfant, c'était pas un petit être humain, c'était pas un petit adulte, c'était bien un être humain, mais pas un petit adulte. Il y a vraiment, on a théorisé, on a aidé, je dirais, tous les professionnels de l'enfance à avancer, à travailler, à considérer, à parler aux enfants d'une façon bien particulière, bien appropriée. En revanche, du côté des plus âgés, je ne suis pas certaine, et même j'en suis assez convaincue, que ce travail-là n'a pas été fait. Donc, entendre de la bouche d'une jeune femme qu'elle est choquée et que pour elle, il y a un vrai travail à opérer et qu'en plus, elle le fait avec sa maman, alors là, je dirais, c'est l'extase.
Tout à fait. Alors, faut souligner, hein, c'est Florence Monteil, Jean-Christophe Martineau et Lauriane Clément, qui ont participé donc
à ce travail. Remarquable toute l'année.
Ouais. Et on va en parler. Alors, le CRU 2017, rapidement, ceux qui ne sont pas là, je vais quand même les citer, Il y a des jardins thérapeutiques. des balades en triporteur, une chorale pour les personnes sans abri. Vous devez être à chaque fois étonné à la rédaction quand vous découvrez...
Étonné et ému. À chaque fois, il y a une vraie histoire derrière. Il y a l'histoire d'une rencontre. Il y a l'histoire, une histoire parfois un petit peu d'étonnement. Donc nous, on adore. Hein. C'est là, on est avec des yeux d'enfant quand une dame venue des pays du Nord nous dit « Pour moi, c'est évident qu'il est possible de sortir des personnes de leur maison de retraite pour ne serait-ce qu'elles sentent les éléments. » C'est-à-dire qu'effectivement, que le nez au vent, elles ressentent les embruns, les odeurs. Parce qu'on oublie que quand on est dans un univers clos du matin au soir, ces sensations-là, on ne les a plus. Donc voir que cette femme trouve étonnant que ça ne puisse se faire et que, en plus de cela, elle va se battre avec l'administration qu'on connaît tous. Enfin, je trouve que c'est des histoires à la fois qui démarrent de choses à la fois naïves, mais en même temps qui sont des histoires qui sont extrêmement fondatrices pour notre société.
Mmh. Michel Joyot, alors comment sont nés les grands parrains? Plus de 2000. On a bien noté.
Voilà.
Dites-nous un peu, c'est à la fois tellement naturel, votre élan du cœur, et en même temps tellement important. Ça veut dire comment ça se fait qu'on n'y avait pas pensé plus tôt?
En fait, j'étais grand-mère à 40 ans, et j'emmenais avec moi toujours mes petits-enfants, et un ou deux enfants de la DAS sous main de justice. Et comme je travaillais, je les emmenais, quand c'était leur jour de congé, qu'ils venaient chez moi, je les emmenais dans mon service. Et dans mon service, je travaillais au ministère du Travail. Un jour, mon supérieur hiérarchique rentre dans mon bureau en riant et en disant « Ah, t'as encore amené un tel ?» Je dis « Oui, c'est son jour de congé. » Eh bien, au lieu d'amener un tel, comme tu dis, tu ferais très bien de créer ton association, comme ça, au lieu d'en amener un, eh ben, tu pourras en sauver un millier, au moins. Mmh. Alors, j'étais interloquée, j'ai éclaté de rire, et alors il me dit « décision ». Ben, je dis « je suis d'accord, si vous êtes à mes côtés ». Et tous ces directeurs se sont mis à mes côtés, et on a créé Grand Parrain, ensemble, qui m'a poussée vers cette idée. Et notre premier vice-président, il habite près de Lille, à Ronque, et il a créé lui-même Grand Parrain Nord. Donc, on est sur toute la France, et je pense que c'est vraiment indispensable, parce que c'est tellement triste. Les enfants, quand ils viennent nous voir...
Quand ils n'ont pas de grands-parents.
Voilà. À l'école, ils disent à leur maman, en pleurnichant, pourquoi c'est toi qui viens me chercher? Pourquoi c'est pas ma grand-mère? Ou pourquoi c'est pas une grand-mère? Alors, la maman dit, parce que ta grand-mère, elle est à Alger. Ta grand-mère, ma foi, tu sais, on est fâchés avec elle. Moi, je n'ai pas de parents actuellement. Alors, bon...
Alors, c'est plus que les grands-parrains ne sont pas là pour garder les enfants, les récolter à la
absolument
sortie de l'école
pas.
Simplement. Il y a beaucoup plus que ça.
Absolument.
Qu'est-ce
pas.
Qui se passe entre
en fait,
les deux?
En fait, les grands-parrains sont là uniquement pour donner de l'affection, pour donner des repères, pour soutenir, pour écouter, pour promener, pour gâter. En fait, pour être une grand-mère et un grand-père.
Y a un attachement, j'imagine, très fort qui se développe entre l'enfant et...
L'attachement est sensationnel des deux côtés. Tout dernièrement, il vient de rentrer dans mon conseil une dame qui me dit « Vous me connaissez depuis 10 ans. » Alors je dis « Oui, en effet, comment se passe votre grand parrainage ?» Alors elle me dit « Écoutez, je vous téléphone parce que je voudrais rentrer dans votre conseil d'administration au niveau national pour vous aider tous. » Parce que depuis 10 ans, notre vie, à mon mari et à moi, a totalement changé. On a repris le goût de vivre, on a des désirs, on pense sans arrêt à la visite de Petit Pierre. Et Petit Pierre, maintenant, eh ben Michel, vous vous rendez compte, il a 18 ans. Voilà.
Et il restera, alors, en tout cas, ça le marquera. Ouais.
Et alors, cette dame est devenue notre correspondante sur l'heure où elle est 6 mois par an. Et elle fait un très bon travail.
Mmh. Il faut bien le dire, on peut pas être grand parrain avant 45 ans. Ça, c'est dans les statuts de l'association.
Oui,
enfin,
oui,
en tout cas,
oui,
ça peut se discuter.
Autour, oui.
Comment vous faites pour sélectionner? J'ai envie de dire, parce que c'est quand même un engagement. Vous l'avez dit, c'est très affectif aussi. Hein, il y a un lien très fort. On peut pas faire n'importe quoi avec les enfants.
Non. On ne peut pas faire n'importe quoi. On doit être presque en état de grâce, en fait. Mmh. En fait, j'ai pris pour modèle ma grand-mère, qui m'a élevée parce que mes parents étaient des philatélistes internationaux. Donc, elle m'a soutenue, elle m'a donné envie d'arriver, envie de vivre, envie de donner. Et je me suis fixée d'essayer de donner aux enfants ce que moi-même j'avais reçu, alors que j'aurais dû être seule et bien triste. Donc, nous avons un site, www.grandparrain.fr. Sur ce site est expliqué exactement comment fonctionne un grand parrainage. Et si l'on est d'accord, il y a une fiche que l'on remplit, que l'on nous envoie. Et immédiatement, on envoie un dossier qui est assez complet, qui demande plein de choses, dont une lettre de motivation, entre autres. Parfois, l'avis de ses propres enfants. Parce que parfois, il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants du fait que c'est des familles monoparentales ou homosexuelles. Et on demande également un certificat médical d'aptitude physique et psychique. On demande un papier d'assurance. Oui, on téléphone,
qu'un filleul, ça
on
peut être exigeant. Un filleul, ça peut être exigeant.
Un filleul, c'est terriblement exigeant. Un filleul, on a des filleuls qui cassent les grands parrainages. On leur téléphone pour savoir pourquoi. Eh bien, c'est parce que ma mamie, tu comprends, actuellement, elle a pas de cheveux blancs. Elle a du rouge aux ongles. Ça, c'est pas une mamie. Vous vous êtes trompé, on n'en veut pas.
Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Mais en tout cas, ils nous le rendent bien souvent, j'imagine. On y reviendra notamment sur le travail que vous pouvez faire, dont vous avez évoqué tout à l'heure, le Liban. Jean-Jacques de Rosio, quand on entend cette situation donc des enfants plutôt... je ne vais pas dire en mal de solitude, mais qui cherche un peu des grands-parents. Là, il y a une solution. Vous, c'est pareil. C'est aussi une question de solitude qui vous a motivé, en tout cas de lutte contre la solitude.
Alors, tout à fait. Alors, donc quand on a pensé à cette association, qui est jeune, hein, elle a 3 ans. On a fêté nos 3 ans samedi dernier. On a fait une grande fête. Et on a
T'as un ami, ça s'appelle.
T'as un ami, Théa, le chiffre 1 AMI. Eh bien, effectivement, la jeunesse de cette association est assez simple. De tout mire dans la vie de tous les héros, et je ne suis pas un héros, je ne suis qu'un être humain, dans la vie de
vous
tous les héros...
Vous n'allez pas vous mettre à le chanter comme Daniel Balavoine quand même.
Bon, peut-être. Donc dans la vie de tous les héros, il y a effectivement une genèse. Alors, il y a 2 événements majeurs quand même pour cette association. Le premier événement, je vais aller très vite, la visite des mouroirs de Mère Teresa à Calcutta. Quand vous allez voir ces mouroirs, vous avez des grandes salles et vous avez des gens qui sont en fin de vie, qui sont par une petite centaine dans chaque salle. Et je peux vous dire que quand j'ai vu ça, ça m'a fait tilt, parce que non seulement il y a la misère, mais les gens ne sont pas seuls. Et je crois que les gens, il y avait des lits par terre, et les gens étaient les uns avec les autres et discutaient. Et ça, c'est un élément quand même qu'il faut garder en tête, parce que notre société européenne a perdu un peu ce contact, cette amitié. Et la deuxième raison, la deuxième jeunesse de cette association, bien, c'est Eliane, une dame âgée que j'ai suivie pendant longtemps. Je n'étais pas dans une association et elle disait à tout le monde, j'ai un ami. Elle était handicapée, elle était seule, elle avait des problèmes de vue. Et quand elle est décédée en janvier 2014, elle a fait un faire-part. Elle a écrit à mon ami. Alors ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais vraiment, notre société est porteuse d'un risque majeur. Aujourd'hui, c'est la solitude qu'on retrouve un peu partout. Donc on s'est réunis, une dizaine de personnes du conseil d'administration. On a créé cette association pour aider les personnes isolées, quel que soit leur âge et leur handicap. Parce que nous suivons aussi bien des jeunes handicapés de 18 ans, et bien sûr beaucoup de personnes âgées, puisque la solitude se trouve aussi chez les personnes âgées, et les enfants aussi en difficulté scolaire, et qui sont isolés dans le contexte scolaire. Donc effectivement, la solitude est présente sur toutes les générations, elle est présente aussi à l'international, puisque nous suivons aussi des enfants orphelins indiens, mais orphelins, toujours dans la solitude, des gens qui sont dans la rue, et nous les récupérons, et nous les scolarisons, vaccinons et habillons pour qu'ils puissent vivre une expérience de vie dans un monde normal.
Je le disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est presque naturel, malgré tout, de s'occuper des personnes qui peuvent être dans notre rue, dans notre immeuble, qui se retrouvent seules. Pourtant, il vaut mieux quand même, la structure associative aide à vivre cette relation.
Bien sûr, mais c'est pas si naturel que ça. Aujourd'hui, on constate que... Alors bien sûr, je prends un peu l'expérience que nous avons, les personnes qui sont à la retraite ou proches de la retraite nous aident à ouvrir des villes. On a 30 personnes à la retraite ou proches de la retraite qui ont ouvert des villes, hein, t'as un ami, hein, et on en cherche encore, on voudrait être présent dans une dizaine d'années partout. Notre rêve, c'est d'être partout, là où il y a de la solitude, et elle est partout. Mais c'est pas si naturel, parce que les gens sont un peu... reclus sur eux-mêmes. On pense beaucoup à soi, mais on regarde pas la misère. On peut passer devant une personne sur le trottoir et
donc
sans,
avoir
sans
un
la
peu
rencontrer.
L'appréhension, malgré voilà. tout, à aller rencontrer la même
personne. Il y a l'appréhension, mais aussi la méconnaissance du monde associatif. Je crois qu'on... quand on voit effectivement au Canada, on peut toujours regarder ce qui se passe aussi ailleurs. Au Canada, il n'y a pas besoin d'association pour l'isolement. Dans les immeubles, dans les maisons, on connaît le petit voisin, la petite voisine qui est seule, et les gens y vont naturellement. Mais on y arrivera. On y arrivera. Il faut toujours être confiant. Et il faudrait qu'un jour, on n'ait plus besoin d'associatif, mais que tout le monde se prenne en main en disant, je connais la personne isolée à côté de chez moi. Je la vois le matin, et je vais lui rendre visite, puis je l'invite de temps en temps à manger. Mais ça, c'est vraiment notre rêve, mais ça arrivera, ça arrivera.
Oui, parce que j'ai regardé un peu ce que vous faites, et lu les statuts de votre association. C'est très simple, finalement. Il s'agit, vous le dites, 1h30 par semaine,
tout
qu'on
à
consacre
fait.
À un ami, qui peut être dans la solitude, personne âgée ou autre, simplement pour discuter,
pour
jouer
discuter,
avec, aller
jouer,
faire des courses.
Tout à fait.
C'est très simple.
C'est ce qu'on devrait faire un peu naturellement, mais qu'on ne fait pas effectivement aujourd'hui parce que il y a peut-être
mille sollicitations.
Voilà. Mais aussi notre rôle, c'est de faire venir bien sûr les personnes d'un certain âge, de tous les âges, parce qu'on a plein de gens qui nous rejoignent, dont des sœurs religieuses qui sont à la retraite et qui disent
qui sont seuls ou qui vont visiter les autres.
Qui vont visiter, qui sont seuls, les deux. C'est-à-dire qu'ils disent pourquoi pas donner. Et puis il y a des gens seuls qui deviennent après visiteurs ou visiteuses. Mais effectivement, on a aussi les jeunes. Je crois qu'il faut aussi, c'est une problématique d'éducation des jeunes. Et je crois que dans toutes les associations aujourd'hui présentes, les jeunes, faut aussi les attirer, faut leur donner un rôle dans le monde associatif. Et même si ce rôle ne dure qu'une année. Parce que souvent, les jeunes sautent effectivement d'une association à l'autre ou sont plus mobiles, voire déménagent. Eh bien, c'est important parce que ces jeunes auront pris goût à ce qu'est le monde associatif et ils iront un jour. Peut-être pas dans la même association, mais c'est pas important. Mais ce sont les jeunes qui vont demain nous aider effectivement à faire un monde nouveau. Et ce sont les seniors, alors les retraités, qui eux peuvent ouvrir parce qu'ils ont une demi-journée, une journée par semaine pour venir aider, pour accompagner effectivement à l'ouverture. Donc on est vraiment dans du multiculturel intéressant.
D'autant plus que j'ai l'impression que, comme les grands-parrains avec leurs petits-filleuls, c'est réciproque. T'as un ami, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans l'amitié, on ne sait plus qui est...
Bien sûr. Et là, bien sûr, c'est la même chose. Chez un ami, l'amitié, c'est quand elle s'est formée, après, tout est oublié. Et ça veut dire on forme... une forme de relation. Alors cette relation est importante, c'est on va vers un chemin dans le chemin de la relation, mais c'est pas une relation galvaudée, parce que tout le monde dit attention aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont un peu trompeurs. Alors on a plein d'amis, on a des relations. Non. Nous, c'est l'amitié. L'amitié est essentielle. Je crois que c'est ce qui sauvera vraisemblablement le monde demain.
Voilà.
En tout cas,
c'est la meilleure arme contre la solitude. Alors, vous nous parlerez tout à l'heure des délibérations du jury en 2017, puisque vous y avez participé, Jean-Jacques Derosio. Bernadette Préhant, alors vous avez été lauréate, je l'ai dit, il y a longtemps, en 2013, une des premières éditions des Héros de notre temps. Et c'est dans le cadre de votre activité professionnelle à l'INSERM que vous avez eu cette idée de faire se rencontrer les chercheurs à la retraite et les associations de malades. Pour qu'ils se battent ou quoi?
Pas tout à fait. On espère qu'ils ne vont pas se battre. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore battus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les associations de malades, j'ai envie de parler d'elles d'abord, parce que c'est avec elles que je travaille maintenant depuis 7 ans, puisque moi j'ai quitté mon travail à la paillasse dans un laboratoire de chercheurs, pour aller travailler vers quelque chose qui me semblait plus en lien avec la société, qui était plus humain et dont j'avais envie et besoin à ce moment-là. Et donc, les associations de malades, c'est des personnes qui vivent avec leur maladie tous les jours. Donc, elles ont une grande expérience du vécu de la maladie. C'est ce qu'on appelle l'expertise expérientielle. Bon, c'est un mot un petit peu barbare, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et elles sont pas seulement des experts du vécu de leur maladie, mais elles sont aussi des véritables médiateurs de l'information scientifique. C'est-à-dire qu'elles vont transmettre à leurs adhérents
tout ce qu'elles ont envie d'apprendre et tout ce qu'on peut, nous, à l'INSERM, leur transmettre. Alors, l'INSERM a compris ça.
C'est là que vous intervenez, parce que parfois, elles sont démunies.
L'INSERM a compris ça depuis longtemps, hein, depuis 2003. L'INSERM a compris qu'à combien c'était important et combien les associations de malades étaient de véritables partenaires de la recherche. Et donc, il a construit un dispositif de dialogue et puis, sur le terrain, un autre dispositif qui est la mission Association Recherche et Société que j'ai le plaisir d'animer maintenant et qui organise tout un tas d'actions, des formations à destination des associations de malades parce que leur premier besoin, au départ, c'était l'information. Maintenant, l'information, elle est là partout sur Internet. Donc, leur demande a un petit peu évolué. Maintenant, c'est « aidez-nous à faire le tri ». Parmi les bonnes, entre les bonnes informations et les moins bonnes.
Et c'est là qu'interviennent les chercheurs
à
la retraite.
Et donc, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, en 2011, il y a une chercheuse qui était sur le point de partir à la retraite, ou qu'il était depuis quelques mois, qui a entendu parler des associations de malades et tout ce qu'on pouvait faire avec elles, et qui est venue nous voir, et qui nous a dit « moi j'ai envie de travailler avec vous ». Et du coup, on s'est dit qu'elle n'était peut-être pas unique. Cette personne, je peux dire son nom, parce que c'était une des trois fondatrices de Sciences hein. On a été trois. Dominique Denet-Camel, qui dirigeait à l'époque la mission Association, Dominique Duménil et moi-même. Et on s'est dit qu'elle n'était pas toute seule. Et donc, on a eu l'idée de construire ce réseau. Alors, petit à petit, de bouche à oreille, avec les chercheurs qu'elle connaissait. Et puis, et donc, au début, on a fondé ça la première année, donc en 2012. Hein, et la première année, à la fin de l'année, on avait une petite cinquantaine de chercheurs qui nous avaient rejoints. Et puis, il faut savoir aussi que l'INSERM, donc c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, donc la santé, c'est quelque chose qui est l'affaire de tous, hein, est en relation de partenariat avec, bon, à l'époque, 380 et maintenant 500 associations de personnes malades, de personnes en situation de handicap et de leurs familles. Et donc, on les a invité toutes ces associations à rentrer dans le réseau Sciences. Et au début, c'était pas si facile que ça. Hein, ça n'a pas été forcément tout rose. D'abord parce que les chercheurs, ils avaient petite peur quand même. On s'est rendu compte qu'ils avaient des craintes.
C'est pour ça que je me disais qu'ils allaient peut-être se battre. Mais finalement, non.
Non, mais ils avaient des craintes. Mais est-ce que je vais savoir faire? Moi, je sais pas parler avec des associations de malades. J'ai jamais appris.
Puis il peut y avoir aussi pour les malades le sentiment d'être parfois isolé, incompris.
Alors, les associations. Mais c'est pour ça qu'il y a des associations. Hein, si vous voulez, les associations de malades, elles portent la voix des malades. Et elles travaillent pas seulement pour les malades de leur association, elles travaillent pour tous les malades. Et elles ont fait considérablement avancer les choses. Si vous vous souvenez ce qu'ont fait les associations SIDA, il y a un film qui passe en ce moment, elles ont quand même fait bouger les lignes dans le domaine. Alors, nous, on est arrivés, je dirais, 10 ans plus tard. Et puis, c'est maintenant, l'atmosphère est un petit peu plus douce. Les choses, on peut se parler maintenant, on peut s'écouter. Et puis, il y a ce partenariat que l'INSERM a compris.
Et puis, c'est important, effectivement, de pouvoir vérifier les informations qui peuvent.
Mais c'est ça, et c'est ça que l'INSERM apporte, en fait. Hein. Ça apporte une garantie bilatérale. C'est-à-dire, à la fois pour les associations, la garantie du sérieux, de la garantie de la validité scientifique de ce qu'on annonce, de ce qu'on informe, de ce qu'on apporte comme information. Et puis, pour les chercheurs qui sont à la retraite, qui sont rentrés dans le réseau, on leur apporte la garantie que toutes les associations avec lesquelles elles vont travailler, on les connaît. Donc, on connaît les deux. Donc, voilà.
Carole Renucci, c'est important ce travail autour de la santé, de l'accompagnement des malades.
Alors c'est extrêmement important et ça va l'être de plus en plus, hein, puisqu'avec le vieillissement de la population, on comprend bien que la santé est un vrai enjeu. Donc on peut se réjouir, hein, allongement de l'espérance de vie et allongement de l'espérance de vie en bonne santé. Mais ça va aussi poser des questions, je dirais, de coût, tout simplement. On a déjà eu le sujet des mutuelles l'année dernière. Aujourd'hui, on est quand même face à une certaine complexité en matière de remboursement des soins. On a des courriers, des lecteurs qui nous disent « j'ai une nouvelle mutuelle, puisqu'elles sont obligatoires, comme vous le savez, depuis janvier 2016. Mais là, je viens de découvrir que ça allait me coûter tant, j'avais pas l'habitude de payer tant. » Bref. Là, il y a une prise de conscience que la santé, c'est pas gratuit, qu'il va falloir effectivement être un bon interlocuteur face à son réseau de médecins et que pour cela, il faut être bien informé. Donc, des réseaux comme celui que vous venez de décrire sont formidables parce qu'ils vont vraiment permettre de fluidifier et puis de tout ce qui permet d'apporter de la connaissance, de faire grandir d'une certaine façon la connaissance générale dans un secteur, c'est formidable et c'est nécessaire.
Je vous l'avais dit, ils sont formidables. Alors on va écouter un peu de musique et après on retrouve Tina Kiefer. C'est Émilie Loiseau qui chantait « Des héros pour aujourd'hui ». C'est le thème de Grand Angle sur RCF avec Carole Renucci, Tina Kiefer, Michel Joyot, Jean-Jacques Derousseau et Bernadette Bréant. Oui, vraiment, le studio est plein de héros. Alors, Tina Kiefer, alors, on va encore franchir des frontières. On a franchi des frontières entre générations, entre des murs qui séparent des solitudes. Et là, vous, votre association, qui a été toute à l'école, qui a été donc couronnée par ces héros de notre temps 2017, eh bien, vous allez nous en parler. Comment est née cette idée ?
Alors, cette association, Toutes à l'école, est née il y a à peu près 12 ans. À l'époque, j'étais journaliste, je m'occupais du magazine Marie-Claire, et j'ai fait un voyage au Cambodge, qui m'a beaucoup marqué. C'est un pays très, très, très touchant, le Cambodge. Il se trouve que j'ai rencontré une petite fille très, très mal en point, que j'ai ramenée, qui est devenue mon cinquième enfant. Et quand j'ai rencontré cette petite fille, j'ai eu très envie de créer une structure pour les petites filles comme elle qui allaient rester sur le carreau parce que c'est un pays qui est difficile pour les enfants, particulièrement pour les petites filles. Comme tous les pays émergents, les petites filles ne vont pas prioritairement à l'école et il y a de la prostitution. Et donc je suis rentrée, j'ai retrouvé la rédaction de Marie-Claire avec une grande envie, c'était de faire une école. Bon, j'avais été sensibilisée aussi par mon métier de journaliste parce qu'évidemment je recevais énormément de reportages à publier sur les crimes d'honneur, les mutilations sexuelles, toutes les horreurs que subissent les femmes dans le monde. Et on sait que toutes ces horreurs sont quand même liées beaucoup à un problème de manque d'instruction. d'obscurantisme et que c'est par l'éducation justement qu'on sort de tout ça. Donc voilà, donc je dirais qu'il y avait un terrain. C'était et donc je me suis lancée dans cette aventure. J'ai créé un événement qui s'appelait la Rose Marie-Claire qui m'a permis de financer le premier bâtiment qui est devenu la Flamme Marie-Claire. Maintenant c'est une bougie. Et petit à petit, c'est avancé. Donc la première année, il y avait 92 petites filles qui sont rentrées en cours préparatoire. Donc des petites filles vraiment issues de la très grande pauvreté. Souvent les parents sont analphabètes. En plus, il ne faut pas oublier que le Cambodge est un pays qui a subi le régime des Khmers Rouges, qui a perdu ses intellectuels. Et chaque année, on inscrit 100 nouvelles petites filles parce qu'évidemment, chaque année, nos 100 nouvelles petites filles.
Mais vous gardez celles qui sont rentrées.
La première année passe au niveau supérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on ouvre les classes de terminale des petites du CP d'il y a 12 ans. Et on a 1300 petites et jeunes filles. Et là, on est en train de préparer l'université parce que l'idée aussi de cette école qui est un peu particulière, c'est de se dire, c'est pas parce qu'elles sont pauvres qu'on va simplement leur apprendre à lire et à écrire. On va leur donner une éducation, une instruction très exigeante. C'est une école où on mettrait nos propres enfants. Et je me faisais le pari que ça allait marcher. Et c'est au-delà de nos espérances parce que on a à peu près 80% de nos élèves de la première année qui rentrent en terminale. Mmh. C'est bien au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc voilà comment est née cette aventure. Et puis bon, on est poussé par la détermination de ces petites filles qui est absolument.
C'est une école de l'excellence, mais véritablement au service du pays, puisque vous l'avez dit, voilà. Les intellectuels.
Donc l'idée, évidemment, c'est pas qu'elles s'expatrient. L'idée, c'est qu'elles aient des postes de décision dans le pays avec des valeurs. C'est-à-dire que dès la première année, j'ai vraiment voulu mettre en place des cours. Alors, au départ, c'était de morale. Je trouve que c'est dommage, ça manque en France. Et après, de cours de valeurs. Donc, elles savent toutes qui est Malala, le prix Nobel de la paix. Elles sont au courant de tout parce que on leur fait voir des reportages sur le partage, sur l'égalité, sur la tolérance, la lutte contre le racisme, pour l'environnement, etc. Pour en faire des citoyennes investies. L'idée, c'est pas de les culpabiliser, de leur dire, voilà, tu viens ici, il va falloir que tu te...
Voilà, non, avec une charge.
C'est de créer chez elles une indignation naturelle par rapport à tout ce qui se passe pour qu'elles aient envie de se bouger. Voilà. Il y a des écoles publiques autour qu'on aide, bien sûr. Par exemple, le samedi, elles vont animer des ateliers de lecture parce qu'elles, elles ont de la chance, elles savent lire, écrire, elles parlent l'anglais, elles parlent même le français, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà, donc elles transmettent aussi. Et puis dans les familles, bien sûr, on aide les familles également.
Et vous sentez, de toutes les façons, chez ces petites filles qui grandissent avec vous, cette curiosité, cet appétit peut-être.
Mais c'est ça qui est extraordinaire. Et on se dit finalement, l'enfant, quand on le prend jeune, parce qu'elles arrivent, elles ont 6 ans, elles sont là du matin jusqu'au soir, elles restent assez tard, parce que l'idée, c'est pas qu'elles travaillent après dans les champs, etc. Donc elles font leurs devoirs à l'école, etc. Et donc, en fait, c'est pas simplement de l'instruction, c'est vraiment aussi de l'éducation sur toute la ligne. Et on se rend compte que ces petites filles, elles ne demandent, non seulement elles ne demandent qu'à apprendre, mais elles ne demandent qu'à s'investir dans toutes ces belles valeurs. Ça vous réconcilie un petit peu quand même avec beaucoup de choses. On se dit que finalement, si on donne à la jeunesse des informations qui sont positives, qui sont humaines, on peut vraiment l'emmener dans le bon sens. Mmh. Voilà, et ça fait réfléchir. Et en tout cas, on s'en rend compte, qu'on en fait vraiment le constat.
Et ça, vous l'avez vécu au Cambodge. Et on sent chez vous aussi l'envie que ça puisse essaimer, que ça puisse...
Disons que c'est sûr que quand on a un modèle qui fonctionne et on voit que là vraiment ces petites elles sont rayonnantes quoi. C'est ça qui marque quand on arrive à toutes à l'école dans cette école et que vous traversez la cour de récréation, vous devez avoir il y a trois sites, hein. Il y a l'école primaire, il y a le collège et puis il y a le lycée et puis bon, il y a aussi un internat, un centre médico-social, etc. C'est devenu un gros campus. Et quand vous traversez la cour de récréation, vous voyez toutes ces petites filles, elles ont toute la banane. Mais plus qu'en France. En France, moi quand je cherchais mes gamins à l'école, il y a des gamins qui sont souriants, il y a des gamins qui font la gueule, qui sont désagréables, qui sont bien élevés, qui sont mal élevés, et qui sont souvent pas du tout contents d'être à l'école, qui râlent. Et là-bas, ben non. Là-bas, elles sont toutes contentes d'être là, elles ont toutes le sourire. Et pourtant, chez elles, c'est dur. Il y a des violences, on a une grosse équipe d'assistantes sociales qui travaillent sur le terrain, justement, pour résoudre ça. Et c'est extraordinaire de vous dire que finalement, l'enfant, quand tout n'est pas acquis d'emblée, elle se rend compte comme c'est précieux, elles n'ont pas envie de retourner. Elles n'ont pas envie d'avoir la même vie que leurs parents. Et bien, d'un seul coup, elles profitent vraiment de la vie et de leur chance. Et elles ne sont pas blasées, comme c'est le cas ici.
Et vous vous occupez essentiellement, vous occupez des filles, d'ailleurs, c'est bien le titre de l'association, parce que ce sont sans doute les plus fragiles, en tout cas les plus exposées dans la société.
Alors, ce sont les plus
vulnérables.
Mais
toute la famille en profite.
Ah oui, bien sûr, oui. Et puis moi, j'ai aussi des fils à la maison. Et... Non, l'idée, c'est pas bien sûr de faire une préférence. C'est que c'est beaucoup plus utile. D'abord, parce que quand une famille pauvre envoie un enfant à l'école, elle choisit le garçon. Les petites filles sont plus vulnérables, notamment sur la prostitution. Et puis, vous savez, quand une petite fille va à l'école, l'école, c'est une mère en puissance. Et si elle est instruite plus tard, avec des valeurs, etc., eh ben, elle va transmettre à ses enfants, donc elle va transmettre à la génération future. Et c'est pour ça que l'éducation des femmes, c'est si important pour aider les pays émergents. C'est-à-dire que toute cette énergie qu'on met, que ce soit notre énergie, que ce soit aussi l'argent des donateurs, etc., il est démultiplié dans le futur. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille sur l'éducation des filles. Mais par exemple, le mercredi, nos salles d'informatique sont ouvertes pour les garçons. Il y a des tas de liens, des tas de passerelles, bien sûr, qui sont tissées.
Carole Renucci, encore l'expérience de Tina Kieffer. À l'étranger, c'était aussi quelque chose qui vous a marqué, enfin qui a marqué
le jury. Oui, alors déjà à l'étranger, ça fait rêver beaucoup de gens. C'est vrai que on le sait, hein, chez nos jeunes retraités, le premier mouvement, c'est de faire les voyages qu'ils n'ont pas pu faire. Donc parfois, ils sont confrontés à des histoires telles que celles que Tina vient de décrire. Leur fournir des modèles comme celui-là, ça peut être effectivement très 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 inspirant. Et Tina hier nous racontait l'histoire de Mimi, donc peut-être Tina vous pouvez en dire deux mots.
Allez,
c'est une très jolie histoire de jeunes retraités aussi.
Mimi, c'est une bénévole qui doit être à l'association maintenant, je ne sais plus, depuis 6 ans à peu près. Elle a aujourd'hui 77 ans, elle a une énergie absolument incroyable. Au départ, quand je l'ai rencontrée, c'était par ma mère qui m'appelle et qui me dit un jour, c'est Tina, j'ai une amie, elle habite Cannes, j'ai une amie qui a vraiment envie de faire de l'humanitaire, elle aimerait partir au Cambodge. J'étais un petit peu surprise parce que, bon, c'est quand même extrêmement roots, ce Cambodge, par rapport à l'univers des amis canoises. Maman, je lui dis ça. Voilà, j'étais sûre. Elle m'a dit, écoute, je t'assure, elle a vraiment envie d'aider, etc. Rencontre-la. Et je vois arriver une femme, effectivement, extrêmement déterminée, qui déjà, à l'époque, devait avoir 72 ans, 71 ans. Et en discutant, je lui dis, vous avez une adresse mail? Elle me dit, oui, je vous la donne tout à l'heure. Et c'est un détail qui m'a beaucoup amusée. Elle me l'a dit après par la suite. En fait, elle n'avait pas d'adresse mail. Mais dès qu'elle est sortie, elle a appelé sa petite fille et lui a dit « Prévois vite une adresse mail parce que j'ai voulu montrer que j'étais... » Voilà, et donc...
Qu'elle était branchée,
qu'elle n'était pas du tout prisonnière d'une génération. Et donc, Mimi part au Cambodge. Et Mimi, aujourd'hui, elle est arrivée à diriger l'internat où il y a plus de 100 petites filles, s'occuper des parrains. C'est-à-dire que 6 heures du matin, c'est la première debout. Et on ne peut pas l'arrêter parce que elle adore ça, quoi. Et elle a une expérience qu'elle peut transmettre. Il se passe des choses extraordinaires entre cette femme, justement, âgée et les toutes petites. En plus, bon, elle a une histoire personnelle douloureuse. Elle a perdu son fils unique et je pense qu'il y a aussi plein de choses, plein de réparations qui se mettent en place. Et vraiment, je peux vous dire que, à partir de cette expérience, je ne regarde plus du tout l'âge. Vraiment, il n'y a pas d'âge limite. Et je me dis, mais mon Dieu, que les entreprises ont tort souvent de se détourner des seniors. Parce qu'il y a parfois... elle est beaucoup moins fatiguée, entre guillemets, que certains jeunes qui viennent travailler dans l'humanitaire, qui ont 22, 25 ans, et qui
pour 2 ans,
ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'énergie, elle est là parce que la motivation, elle est là.
Jean-Jacques de Rousseau, je ne vais pas vous demander si vous avez voté pour Tina Kieffer, mais vous étiez donc dans le jury des prix 2017. Je ne sais pas combien il y avait de dossiers qui étaient présentés au jury.
Alors, en général, on nous en présente, enfin l'équipe, les personnes que vous avez citées, Florence Monteil et Jean-Christophe Martineau, préparent environ 20-25 dossiers. Donc on commence en éliminer Olaf Remo, je dirais une bonne moitié. Et donc lorsque l'on se retrouve avec le jury, qui est composé dans anciens héros, là on en a une
et
bonne douzaine.
De la rédaction aussi.
Les membres de la rédaction, absolument.
Comment ça s'est passé? Tout le monde défend les candidats.
Écoutez, d'abord, on a au préalable le nom des associations ou des sociétés. Hein. Donc ça nous laisse le temps aussi de regarder, de s'informer. Je crois que c'est important déjà avant d'arriver à la réunion.
Connaissant un petit peu.
Bien sûr, c'est de regarder ce qui a été fait.
Et que c'est fait avec beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois quand même souligner l'implication des membres du jury. C'est fait avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils en savent presque plus que nous quand ils arrivent autour de la table.
Et on aime bien poser des questions pièges aussi. Donc. Et après, ben effectivement, on écoute. Il y a un tour de table, hein, donc c'est-à-dire chacun a le droit de s'exprimer, donner son avis, donner son argumentaire. Et je crois que c'est important parce que ça permet aussi, par rapport à un classement qu'on pourrait faire, c'est d'ajuster avant le vote, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a peut-être perçues différemment. Et après, c'est très surprenant parce que. Souvent, on est tous d'accord. C'est vraiment les équipes de notre temps, en dehors du fait que le magazine soit excellent, je l'imagine et j'en suis sûr. Mais les équipes sont vraiment très fortes pour pour nous donner effectivement des éléments, et puis les jurés aussi. Et puis je peux répondre à votre question, bien sûr, l'association Tout à l'école, elle était dans mon cœur avec une autre association. Voilà.
Voilà. Bon, donc vous avez un fan déjà. Et puis en même temps, c'est important, hein, Carole Renucci, vous le disiez, il y a tout le travail de journaliste qui vérifie le sérieux des associations. Michel Joyot, même, votre association des grands parrains, vous insistez bien, vous êtes adhérent aussi à la charte nationale des parrains,
du
parrainage.
Oui, d'ailleurs, j'étais dans l'équipe qui a pondu la charte.
D'accord, donc voilà. C'est ça qui est important aussi, c'est que
voilà. Ça fait 20 ans que l'on fait du grand parrainage. Le grand parrainage prend vraiment une grande place en France. On dit grand parrain comme on dirait un frigidaire maintenant.
C'est peut-être dans le dictionnaire maintenant, non, pas encore.
Ça ne va pas tarder. Il y a Ségolène Royal a écrit un livre où elle parle des grands parrains.
C'est rentré en littérature
et j'ai écrit un livre qui s'appelle Le beau chemin sur le grand parrainage qui est épuisé à l'heure actuelle.
Bernadette Bréant, alors vous avez suivi plusieurs éditions, vous ne voulez pas rater les différentes éditions des héros de notre temps, pourquoi ?
Ah, écoutez, moi j'ai demandé la deuxième année, donc en 2014, je faisais partie du jury, hein, comme c'est l'habitude, et c'est vraiment très très intéressant. Et j'ai demandé, comme j'ai eu des relations un petit peu très sympathique avec Chantal et puis avec Chantal Théolas et puis avec Carole de notre temps. J'ai dit, écoutez, moi, vraiment, j'ai envie de revenir. J'adore ces prix, cette distribution. Je découvre des histoires absolument merveilleuses qui m'émeuvent. Hein, vous l'avez dit, Carole, tout à l'heure. On n'y pense même pas. On n'imagine pas à quel point ça peut être simple et à quel point ça peut être merveilleux et riche.
Ça veut dire que ça devrait être contagieux ?
Absolument. Absolument. Moi, je sors de ces rencontres à chaque année avec le cœur gonflé de joie, comme vous le disiez. Encore plus hier soir, parce que hier soir c'était particulièrement joyeux, je trouve. Hein, là, il y avait une.
J'ai une petite anecdote qui est en lien. On rencontre beaucoup de personnes, des personnalités attachantes. Et l'année dernière, nous avions invité des personnes que nous avions rencontrées sur le Salon des seniors. Parmi ces personnes, une dame. On a fait une web-série, donc on a réalisé 40 portraits de seniors. Et parmi ces personnes, une dame qui était une fan de pêche à la mouche. Donc c'est une personnalité assez étonnante. Une dame, 75 ans, très très autonome, qui s'était imposée au milieu d'un milieu d'hommes de pêcheurs à la mouche. Bon, elle nous raconte sa passion, etc. On l'invite. Et au sortir de la soirée, elle vient me voir, elle me dit « Bon, la pêche à la mouche, c'est bien ». Mais je pense que je peux faire autre chose qui soit beaucoup plus ou qui sera beaucoup plus utile à la société. Alors, il ne s'agit pas de dénigrer la pêche à la mouche, mais en tout cas, à ce moment-là, elle s'est dit, alors je ne l'ai pas revue, peut-être que je la reverrai un jour et qu'elle me racontera une très belle histoire telle que celle que nous avons entendue hier. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment que ça crée des déclics.
Oui, et puis il y a vraiment de l'imagination quand on voit cette association, les triporteurs, pour faire sortir, enfin pour emmener en promenade des personnes qui sont en maison de retraite, qui
absolument.
Sont...
Ce sont des choses assez simples et qui bousculent. Je reviens d'un salon.
Il faut juste avoir l'idée, quoi. Plutôt que la promener en fauteuil roulant.
Oui, alors il faut avoir l'idée, puis il faut avoir l'audace, et puis parfois il faut être inspiré par l'extérieur. Je reviens d'un salon qui s'est tenu à Utrecht, donc à côté d'Amsterdam. Vous ne pouvez pas savoir la différence qu'il y a entre cette société et la nôtre. C'est-à-dire qu'on voit massivement, alors c'était un salon senior, certes, mais on me dit âge moyen 63 ans, des personnes qui se déplacent avec des déambulateurs. En France, je n'en vois pas. Là-bas, les gens osent sortir avec leur déambulateur quand ils sont en peine de mobilité. De la même façon, on voit, alors façon triporteur, des vélos avec devant un compartiment qui permet de sortir la personne qui, là aussi, est en difficulté pour se mouvoir. En France, on ne le voit pas. Des fauteuils roulants dans les aéroports, vous en comptez un ou deux. Vous allez dans les pays du Nord, ça fait partie du décor. Donc je crois que cette histoire qu'on a racontée hier, qui est formidable, elle peut donner envie et l'idée que ce n'est pas parce qu'on est en mobilité réduite qu'on ne peut plus être dans la société. Parce que être dehors, ça veut dire ça, être dans la société.
Tina Kieffer, je vois que vous voulez intervenir.
Non, tout ça, c'était passionnant. Moi, vraiment, hier, j'ai passé un moment très fort. Notamment, vous avez une des associations. Je me suis dit, mais ça ferait un reportage télé extraordinaire.
Ah, ça, c'est la journaliste
qui parle. Oui. Là, je me suis dit, vraiment, c'est cet homme qui a fondé une association. En fait, il s'est rendu compte que les SDF, souvent, meurent seuls. Et on les enterre au petit matin, ce qu'on ne sait pas, quand il fait encore nuit, parce que ça coûte moins cher au niveau des pompes funèbres. Donc, dans des carrés d'indigents. Et souvent, ils sont tout seuls. Et donc, il a décidé, avec un SDF qu'il avait rencontré, donc déjà, il faut faire la démarche de se faire copain avec un SDF. Et un jour, il va voir ce SDF.
Ça, c'est parce qu'il faisait partie de l'association de Jean-Jacques, peut-être.
Et ce SDF était très triste parce qu'il lui a dit, cette semaine, j'ai perdu 3 copains. Et j'étais tout seul. Et on les a jetés comme ça, enfin, l'un après l'autre, c'était pas le même jour, dans un trou et tout ça. Il a décidé de faire une chorale avec les SDF. Et comme ça, quand il y en a un qui meurt, même s'ils ne le connaissent pas, ils vont chanter derrière le cercueil. C'est quand même extraordinaire comme histoire. C'est vraiment. Et puis, quelle est l'histoire de cette personne anonyme qu'on va enterrer derrière? Qu'est-ce qu'elle a eu dans sa vie, etc. Je trouvais que ça donnerait un film formidable. Et donc, hier soir, c'était passionnant parce que vous avez plein de bribes de vie comme ça. D'un seul coup, vous dites, mais c'est vrai que ça existe tout ça.
Mmh.
Et donc,
c'est
j'ai
des
trouvé
vrais
ça
héros.
Très fort. Voilà.
Des véritables héros.
Si je peux garder juste une seconde, parce que ça va peut-être intéresser vos auditeurs. On donne un concert de musique baroque le dimanche 15 octobre pour l'association à Paris, dans une église. Et voilà, donc je voulais le dire. C'est donc à l'église Saint-Jacques du Haut-Pas. Rue Saint-Jacques, donc le 15 octobre à 16h, et ça sera la musique baroque pour toutes à l'école.
Bon, voilà. Alors, il faudrait noter, et il y a d'autres remarques aussi. Alors, Jean-Jacques Desroseaux, allez-y.
Alors, très rapidement, moi je pense que, on parle à cette émission de héros, des héros de notre temps. Mais je crois qu'il faut pas oublier, négliger le fait que tous les auditeurs, nos aînés, bon, je m'adresse surtout à nos aînés, venez faire de l'associatif, venez prendre une part de l'activité dans de nombreuses associations. Et vous verrez que c'est une autre vie qui commencera pour vous, parce que je crois que notre monde pourrait être différent si tous nos aînés, à un certain moment de leur vie, disaient « je passe une demi-journée, une journée par semaine pour aider les autres dans une association ». On n'est pas obligé d'avoir une idée pour venir dans l'associatif. Il y a plein d'idées autour de nous. Choisissez l'idée qui vous convient le mieux et allez-y, passez une demi-journée, une journée. Et vous verrez que vous serez aussi des héros.
Alors, je ne sais pas si c'est vous hein, qui avez dit ça, mais dans le dossier qui présente les héros de notre temps, il y a cette belle citation qui dit que vous, les lecteurs de notre temps, vous êtes une armée. Si chacun de vous fait un petit geste, eh bien, le monde changera. Je sais que le monde est déjà en train de changer. Bernadette Bréhant.
Oui, je voulais juste rajouter que pour aller dans le même sens que M. Desroseaux, tous les chercheurs qui ont commencé à travailler avec les associations de malades, on les ferait pas arrêter. Parce que ils ont compris, ils ont découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et nous, je dirais qu'ils sont un petit peu comme des traits d'union entre les chercheurs en activité et les associations de malades. Et c'est pas des chercheurs qui coûtent rien à l'État, comme on a pu nous le reprocher dans un premier.
Simplement, alors.
Voilà, donc c'est autre chose que ça, et c'est extrêmement utile, et ils comprennent beaucoup de choses. Et nous, notre rôle, c'est justement qu'il y en ait de plus en plus maintenant, et dans les chercheurs en activité, bien entendu.
Voilà, alors les appels sont lancés. En tout cas, il y a des sites pour toutes vos associations. Donc, il faut vraiment pas hésiter, puisque de toutes les façons, tout le monde est branché, ou presque. Et puis sinon, il suffit d'avoir un peu recours aux différentes générations. Carole Ranucci, on est candidat pour être héros de notre temps? Ou alors, comment ça se passe? Vous menez l'enquête.
En fait, voilà, on est journaliste, donc on observe le monde. Et à cette occasion, on fait ces jolies rencontres. Voilà,
et des coups de cœur, c'est pas ça qui manque manifestement.
Absolument.
Pour les grands parrains, vous recrutez aussi, j'imagine.
Je voudrais
Michel
vous
Joyeux.
Dire que nous recevons en moyenne 1000 demandes par an, demandes de familles à 50% monoparentales pour trouver des grands parrains, et que nous manquons énormément de seniors pour répondre à toutes ces demandes. Et ça, c'est.
Voilà. Et pour être grand-parent, on peut être déjà grand-parent. C'est pas gênant.
On peut être absolument grand-parent. Il n'y a aucun problème.
On ajoute des petits-enfants qui sont plutôt des petits-filles.
Et je voudrais vous raconter en 2 minutes.
Très rapidement, on arrive au terme de l'émission.
Oui. Pour vous dire comment nous avons créé le grand parrainage au Liban. Le premier.
On n'en a pas parlé. En une phrase.
La première demande de grand parrainage qui a été faite était par une Libanaise qui était totalement au bout du rouleau parce qu'elle avait absolument aucune famille et elle voulait se suicider avec son enfant. J'ai essayé de la mettre pour être aidée dans des réseaux. Et en fait, elle voulait à tout prix que ce soit moi qui prenne ce grand parrainage. Je ne pouvais pas. Et de ce fait, c'était ma meilleure amie qui l'a pris. Résultat, on est arrivé à les sortir de l'auberge. L'enfant qui, à l'époque, avait 13 ans, maintenant est grand et surdoué et a tout réussi dans la vie.
Eh bien, voilà des héros. Et puis, ça passera de génération en génération. Merci tous les cinq pour ce partage d'expériences et puis de belles histoires. Alors, on les retrouve dans Notre Temps, le numéro d'octobre, avec donc les héros de Notre Temps. Une nouvelle formule aussi à découvrir. Merci à Florence de Saint-Preux qui m'aide, comme chaque semaine, à préparer l'émission, à Pierre-Henri Paget qui est aux manettes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.